Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, la résolution du Conseil de sécurité pour assécher les sources de financement de l'État islamique d'Irak et du Levant. Les 15 qui s'inquiètent aussi de la situation au Yémen. Le lancement d'un appel humanitaire de 2 milliards de dollars pour le Sahel. Dans le dossier, retour sur la dégradation des droits de l'homme en Libye. Et puis coup de projecteur sur la naissance au Mali de Radio Mikado. Le Conseil de sécurité a adopté ce matin à New York à l'unanimité la résolution 2199, résolution qui vise à assécher les sources de financement de l'EIIL, l'État islamique d'Irak et du Levant, ainsi que du Front al-Nosra et d'autres individus, groupes, sociétés ou entités associées au groupe terroriste Al-Qaïda. Les explications de François Delattre, représentant permanent de la France auprès de l'ONU.
Le texte que nous venons d'adopter renforce les obligations qui pèsent sur les États, notamment dans les domaines suivants. Condamnation de tout commerce, direct ou indirect, en particulier de pétrole et de matériel associé, avec les individus ou groupes terroristes visés, sous peine de sanctions. Les États devront informer le Comité des Nations Unies compétent de tout transfert dans leur territoire de pétrole ou de matériel associé vers ou depuis ces groupes. Condamnation de la destruction du patrimoine culturel, y compris religieux, en Irak et en Syrie. Les États devront prendre des mesures pour empêcher le commerce illégal de biens culturels, notamment archéologiques. Indignation, enfin, devant les enlèvements, notamment de femmes et d'enfants, ainsi que leur exploitation, y compris sexuelle.
C'est ensuite le secrétaire général qui est intervenu devant le Conseil de sécurité pour tirer cette fois-ci la sonnette d'alarme sur l'évolution de la situation au Yémen. Situation qui, a-t-il averti, risque de s'aggraver de manière notable à moins d'une action déterminée et concertée. Selon Ban Ki-moon, il faut aider les Yéménites à rétablir une autorité gouvernementale légitime dès que possible et renforcer le financement du plan de réponse humanitaire pour 2015 afin de prévenir toute escale de la violence.
Let me be clear. Yemen is collapsing before our eyes.
Je serai clair, le Yémen est en train de s'effondrer devant nos yeux. Le pays fait face à de multiples défis. Une crise politique dangereuse se poursuit à Sanaa. Il y a de plus en plus d'attaques létales perpétrées par Al-Qaïda dans la péninsule arabique et d'hostilité entre ce groupe et les Houthis. Les tendances sécessionnistes dans le sud sont en hausse et il y a une grave crise humanitaire. Le taux stupéfiant de 61% de la population, presque 16 millions de personnes, a besoin d'aide humanitaire au Yémen. Nous devons faire tout notre possible pour aider le Yémen à sortir du gouffre et relancer le processus politique.
La coordination humanitaire des Nations Unies lance à New York un appel humanitaire régional 2015 pour le Sahel. L'appel de près de 2 milliards de dollars vise à augmenter l'aide pour des millions de personnes touchées par le changement climatique et l'aggravation des conflits. Environ 20 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire dans la région. Les conflits violents et l'insécurité ont conduit 2,8 millions de personnes à fuir leur maison, soit plus d'un million de plus que l'an dernier. Robert Pieper est coordonnateur humanitaire régional de l'ONU. Il souligne l'importance de cet appel.
C'est des grands chiffres, certainement 2 milliards de dollars, mais derrière ces chiffres sont des besoins très élevés, malheureusement. Nous ciblons 3,2 millions d'enfants en malnutrition aiguë, une grande partie en la catégorie la plus sévère. Le risque, si on n'arrive pas, bien sûr, à soutenir ces ménages, sont très graves. Des enfants qui sont malnutris aiguës, en particulier dans la catégorie la plus sévère, sont certainement à risque de mourir. Je n'exagère pas. D'un an à l'autre, nous avons à peu près 600 000 enfants dans la région du Sahel qui meurent à cause de la malnutrition ou bien des facteurs liés avec la malnutrition. Donc, dans tous nos domaines, les abris pour les réfugiés, l'alimentation pour les personnes en insécurité alimentaire, pour le traitement de la malnutrition, les implications de notre faillite sont très, très graves.
Et puis à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre l'utilisation d'enfants soldats ce jeudi 12 février, l'UNICEF annonce que près de 4500 enfants sont sortis des forces et groupes armés en RDC, la République démocratique du Congo, en 2014. Depuis 2002, indique l'agence onusienne, ce sont au total 50 000 enfants sortis des forces et groupes armés qui ont été assistés. 80% d'entre eux sont du Nord et du Sud Kivu. On écoute la correspondance de Radio Okapi.
L'UNICEF saisit cette occasion pour faire le bilan des résultats atteints en RDC dans le domaine de la démobilisation, de la prise en charge et de la réintégration des enfants. 4479 d'entre eux ont été sortis des groupes armés, puis pris en charge par l'UNICEF et ses partenaires en 2014. Depuis 2002, plus de 50 000 enfants sortis des forces et groupes armés ont été assistés, dont 80% au nord et sud Kivu. Pour Pascal Villeneuve, représentant de l'UNICEF RDC, la place des enfants n'est pas au sein des forces et groupes armés, mais dans leur famille et à l'école. L'UNICEF félicite en outre la République démocratique du Congo pour les initiatives prises pour mettre fin à l'enrôlement d'enfants. Il appelle donc le gouvernement à se doter des moyens financiers nécessaires pour traduire ses ambitions en réalisation et à lutter contre l'impunité des auteurs des violations graves des droits des enfants.
Enfin, à J-1 de la Journée mondiale de la radio, coup de projecteur sur la création et les renforcements des radios communautaires grâce notamment à l'UNESCO. Une journée mondiale de la radio axée cette année sur les jeunes. On écoute Michel Kenmo, il était administrateur du programme de communication et d'information au bureau de l'UNESCO à Libreville, au Gabon.
Ce que nous souhaiterons, c'est accroître la participation des jeunes à la radio, accroître le niveau de participation des jeunes dans les radios. Nous croyons que c'est véritablement important, surtout que les jeunes représentent dans beaucoup de nos pays, de l'Afrique subsaharienne, plus de 50% de la population, mais malheureusement, ils sont peu visibles au niveau des médias, et particulièrement de la radio, dont nous voulons, à travers la Journée mondiale de la radio, encourager les radios à pouvoir accroître la participation des jeunes et aussi éviter de présenter les jeunes comme tout simplement des mélomanes, mais mettre en évidence des thématiques avec la participation des jeunes qui portent sur des questions de société au-delà de la simple musique ou bien encore des sujets de culture.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur la dégradation des droits de l'homme en Libye. Selon une étude portant sur 2014 du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la violence endémique et l'intensité des combats, y compris dans les deux principales villes du pays, Tripoli et Benghazi, affectent gravement les civils dans leur ensemble et un certain nombre de groupes spécifiques en particulier. Les précisions de Frej Fenich, il est chef de la section du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, des propos recueillis par Christina Silvero.
La situation des droits de l'homme durant cette année qui est couverte par ce rapport est vraiment très grave dans ce sens qu'elle se détériore de plus en plus. Dans ce rapport, nous parlons plus particulièrement de la situation des civils qui sont les victimes de ce conflit et qui payent le prix très élevé de ce conflit. Nous parlons aussi de la répression de toute expression publique pour exprimer une opinion ou critiquer l'une des parties au conflit ou exprimer une vision différente de ce qui existe. Il y a à ce niveau-là la question des femmes activistes qui ont été tuées. Il y a les défenseurs des droits de l'homme, il y a des journalistes qui ont été kidnappés, même des journalistes étrangers et des journalistes libyens. Et nous parlons aussi de la situation très aléatoire en termes de protection des groupes vulnérables qui deviennent de plus en plus vulnérables, notamment les minorités, certaines communautés comme les Touaregs, par exemple, qui ont été déplacées depuis 2011 et qui continuent à être dans une situation vulnérable. Mais on parle aussi des réfugiés, des émigrés et même d'autres communautés religieuses comme les Coptes, par exemple. Le dernier point que je veux mentionner ici, c'est que tout ceci se passe dans l'impunité totale. Le système judiciaire est très fragile, il n'a pas les capacités, il est presque démantelé et même les juges et les magistrats sont sous la menace. Donc voilà un peu la situation.
Alors, le rapport signale qu'il y a des attaques sur des structures publiques et que les enfants se retrouvent eux aussi à être la cible des violences?
Oui, malheureusement, selon nos observateurs et les informations qui nous parviennent, souvent des hôpitaux, des écoles sont soit utilisés par des groupes armés, soit ciblés. Et les droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit à l'éducation pour beaucoup d'enfants libyens, n'est pas protégé.
Et vous avez mentionné que les femmes faisaient l'objet d'attaques. Il s'agit strictement de femmes qui prennent position en public ou c'est les femmes d'une façon générale?
Bon, en dehors du climat général de peur et dans certaines villes, il y a l'imposition de la charia et des lois qui sont imposées par les groupes armés. En dehors, ça c'est la situation globale. Mais certaines femmes qui se sont exprimées publiquement ont été tuées par des groupes armés.
Alors, quelles sont les mesures et les réponses que prône le rapport?
D'abord, le rapport parle de la Cour pénale internationale qui a encore un mandat sur la situation de la Libye. Le rapport recommande la coopération des autorités libyennes de toutes les parties en Libye de coopérer avec la Cour pénale internationale, d'arrêter l'utilisation des armes et surtout d'arrêter de cibler les civils ou de mettre les civils en danger et de favoriser le dialogue national. Je voudrais aussi souligner l'espoir qui peut renaître de la reprise du dialogue entre les différentes parties prenantes au conflit au niveau de la Libye, aussi bien ce qui a démarré ici à Genève ou les discussions et le dialogue qui s'installent maintenant en Libye.
Alors justement, ces dialogues doivent reprendre en Libye. On y croit? C'est un bon signe? Ça avance?
Disons que ça avance du moment où depuis le 14 janvier, il y a eu deux autres rencontres. Donc le dialogue continue sur deux niveaux, le niveau national à l'intérieur, mais aussi sur le plan international à Genève.
Au Mali, après la manifestation violente de Gao au début du mois au cours de laquelle trois manifestants sont morts, la mission des Nations Unies, la MINUSMA, a décidé d'accélérer le lancement de sa propre radio, Radio Mikado. La MINUSMA qui a voulu ainsi combler un vide et répondre aux fausses rumeurs propagées sur son compte. Radio Mikado qui entend surtout établir un contact direct, sans filtre ni tabou, avec les Maliens. Pour en savoir plus, Jocelyne Sambira a joint à Bamako Hélène Paper. Elle est la responsable de Radio Mikado.
On a lancé la radio Mikado il y a à peine quelques semaines dans des circonstances qui étaient un petit peu non planifiées parce qu'il y a eu la crise qui a éclaté à Gao suite à des incompréhensions par rapport à un document ou un projet de travail qui était en cours et qui est sorti dans les médias, qui a créé donc des tensions, notamment à Gao. Et donc, on a jugé, comme on venait d'installer l'émetteur la semaine d'avant, qu'il était opportun de commencer à expliquer sur nos ondes ce qui s'était réellement passé. Donc, on est allé en onde avec une programmation spéciale, avec toute une série de messages de paix, d'appels au calme. Et très rapidement, on a commencé à avoir un impact. Dans les deux jours même de notre passage en onde, on a eu des retours de Gao très positifs de toutes les différentes factions, même ceux qui étaient les plus retournés par rapport à cette situation et cette incompréhension, et qui nous ont remercié des clarifications qu'on était en train de leur apporter. Donc on est en onde, ça fait quelques semaines maintenant, et on est en train de construire cette radio donc petit à petit, en sachant qu'on diffuse à Gao actuellement et que dans les quelques semaines, on va commencer à diffuser à Tombouctou et ainsi de suite.
Est-ce qu'à l'avenir, vous allez couvrir tout le pays?
On couvrira tout le pays à terme, oui, d'ici la fin de l'année, on aura tous nos émetteurs installés.
Pourquoi la radio a été créée en fait?
Cette radio a été créée parce qu'il y avait un besoin d'avoir une plateforme neutre de discussion pour mettre en relation toutes les différentes populations qui coexistent au Mali, pour les mettre en relation avec elles-mêmes, entre elles-mêmes, mais également avec les différents acteurs civils, avec leur propre gouvernement, avec tous les agents internationaux qui sont représentés actuellement dans le pays, que ce soit à travers le système de maintien de la paix, les différentes agences. Donc ça va être vraiment une possibilité pour répondre à des problématiques qui concernent les populations auxquelles ils cherchent des réponses. Et donc à travers ces différentes émissions qui sont vraiment ciblées par rapport à toute une série de problématiques, on va créer un dialogue ouvert. Ça va également être une possibilité pour les Nations Unies de réellement se faire comprendre, d'expliquer pourquoi ils sont là, quelle est leur présence et leur but, et d'être sûr que l'information qui circule est une information qui est crédible et véritable. Et c'est un problème actuellement au Mali, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un système de radio 24 heures sur 24 qui soit fiable et que les gens puissent écouter, poser des questions, mais qu'on puisse aussi répondre.
La radio s'appelle Mikado FM. Pouvez-vous expliquer pourquoi?
Oui. Mikado, c'est un jeu qui, en fait, consiste à avoir une pile de bâtons et chaque petit bâtonnet est identique mais en même temps un petit peu différent parce que les groupes de bâtons ont des couleurs différentes et les joueurs se mettent autour de cette pile de bâtons et ils doivent tous tirer un bâton de cette pile en s'assurant que le tout ne s'écroule pas. Et donc c'est un peu une métaphore pour célébrer l'individualité de chacun, de toute cette diversité qui existe au Mali, et en même temps de leur montrer qu'on peut être unique dans sa culture, dans cette diversité, et en même temps créer un tout et appartenir à un pays et avoir une unité. Donc dans le processus de réconciliation nationale, c'était une image symbolique qu'on voulait faire donc conveiller à travers ce nom de radio. Et donc on va commencer à faire cette explication à travers la radio et puis avec des groupes de population dans des activités de outreach pour que les gens puissent comprendre un petit peu ce concept.
Voilà, et c'est avec Hélène Papper, la responsable de Radio Mikado, que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur internet radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.